Oui, bonjour. Moi, je téléphone. Je suis assez stupéfait de la réaction de Raffarin après le résultat des premiers tours. Il a l'air de trouver ça parfaitement injuste. Alors, moi, je me demande s'il est con ou s'il nous prend pour des cons, ou les deux. Alors, moi, j'ai un message à faire passer à Monsieur Raffarin. Ça m'étonnerait qu'il écoute là-bas si j'y suis, mais enfin, il entendrait la France d'en bas. Quand il dit je vais répondre aux attentes des Français, moi je lui réponds les Français ils attendent que tu te barres quoi. Et quand il dit je comprends leur impatience, bah oui, on est impatient que tu te barres. Voilà, c'est Philippe.
Je sais que c'est un peu puéril ce que je vais dire là, mais j'ai tellement envie de le dire. Et je vais dire comme Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans un sketch que je crois tout le monde va reconnaître, c'est que ils ont bel et bien pris la pantée. Voilà, ça fait tellement de bien. Au revoir à tout le monde, merci.
Bonsoir, Daniel Mermet, l'émission Là-bas si j'y suis. Vous pourriez, au début et à la fin de chaque émission, nous donner les coordonnées téléphoniques de France Culture. Je n'ai pas d'ordinateur. Effectivement, pour protester contre la mise à l'écart de Miguel Benassayag sur France Culture le matin. Voilà. Et parce qu'il faut protester très très fort. Au revoir, merci.
Bonjour, ce mercredi 24 mars, à la passerelle à 20h30, est projeté le film Présumé coupable. Ce film est un film de soutien à trois syndicalistes, deux Boliviens et un Colombien qui sont emprisonnés depuis 11 mois à La Paz sans procès. Voilà, on compte sur vous, c'est un film de soutien et c'est à la passerelle 3 rue Saint-Hubert dans le 11e à 20h30 mercredi 24 mars.
Oui, bonjour Daniel, c'est Evelyne Dugard. Bon, je viens d'entendre que 23 chômeurs recalculés de Paris ont porté plainte pour rupture unilatérale de contrat. Dans le Gard, nous faisons aussi la même chose. Mais malheureusement, les chômeurs ne se mobilisent pas assez. 2000 sur toute la France, c'est peu. Pourrais-tu passer le message suivant sur l'antenne? Si les chômeurs qui ont porté plainte gagnent, eux seuls verront leurs indemnités peut-être retrouvées, car les dossiers de plainte sont nominatifs. Il n'y aura pas de jurisprudence. Il faut que chaque chômeur porte plainte. Car je répète, si l'on gagne, seuls ceux qui ont porté plainte gagneront. Alors bougez-vous. Au revoir.
Félicitations pour vos émissions, Daniel Mermet. Vous comptez faire des émissions la semaine prochaine sur le Rwanda. J'ai entendu ce matin sur RFI une interview de Boutros Ghali qui regrette ce qui s'est passé au Rwanda et qui dit que la France n'avait aucune responsabilité. Demandez donc lui pourquoi il y a eu des massacres pendant la durée de la turquoise à Bigosore, à Bicerero plus exactement. À cette époque, la France occupait la région de Bicerero et on a exterminé tous les Tutsis. Les Nations Unies n'ont pas été informées. Vous connaissez le Rwanda. Faites en sorte qu'on puisse, les auditeurs puissent avoir une réponse. Le jour où les massacres ont commencé à Bicerero, il y avait le ministre de la Défense française dans cette région. C'était Léotard à l'époque. Posez donc la question. Les Français ont le droit de savoir. Merci beaucoup. À bientôt.
Bicerero, eh bien, justement, amis rwandaises, on en vient de Bicerero. Bicerero fut le haut lieu de la résistance lors du génocide du Rwanda il y a 10 ans. Ça n'a pas été le seul endroit. Il y a beaucoup d'endroits, en fait, où les habitants, les Tutsis, regroupés, ont résisté, ont tenté de résister, mais c'est sans doute à Bicerero que cette résistance a été la plus tenace, la plus longue, la plus âpre, la plus héroïque et la plus pathétique. Et aujourd'hui, les rescapés que nous avons rencontrés avec Guy Van Til, eh ben, accusent les militaires français non seulement de ne pas les avoir secourus à l'époque, mais d'avoir soutenu le camp de leurs bourreaux. Ce sera nos reportages dans la série sur le Rwanda, Valentine Rwanda, qui commence mardi prochain, le 30, et ce sera jusqu'au 9 avril, au moins, parce qu'on a beaucoup de sujets, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires avec lesquelles nous rentrons, nous sommes sur la route du retour. aujourd'hui. Hier, ça a été particulièrement terrible, enfin, comment dire, passionnant, bouleversant, je trouve pas très bien le mot. À Niarobouyé, c'est là que nous sommes retournés. 10 ans après, nous avions découvert le charnier de Niarobouyé. Et dans ce charnier, vous vous souvenez, une fillette de 13 ans, Valentine, que nous avons bien sûr retrouvée tout au long de ces 10 années. Et on s'est attaché à reconstituer ce massacre en rencontrant, en recherchant et en retrouvant les rescapés, très peu de rescapés, une dizaine tout au plus, de ce massacre, et aussi les bourreaux et aussi les attaquants, comme on dit. Et hier, il y a eu une confrontation entre ces bourreaux, aujourd'hui condamnés, et des rescapés de ce massacre. Ça a été particulièrement tendu, violent, et tout indique que la voie de la réconciliation sera très très lente et que la justice est toujours aussi difficile à rendre face à ce drame terrible que celui du Rwanda. D'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. Et ensuite, on revient sur le cochon. Le cochon. Et vous allez pousser des hauts cris, et lui aussi.
Je viens d'écouter l'émission sur la mine en Pays de Galles, qui m'a beaucoup intéressé, vous allez voir pourquoi. J'étais un petit peu déçu parce qu'on nous présentait ça comme une situation exceptionnelle, et je voulais dire que il existe en France des sociétés de ce type-là, ça s'appelle les SCOP, Sociétés Coopératives de Production. Moi je travaille dans une SCOP depuis 3 ans, on a repris notre activité comme on allait être licencié, on travaille dans la formation professionnelle. Et je trouve que ça serait intéressant qu'on en parle un peu plus de cette forme de société. Ce sont des sociétés capitalistes, mais dans ces sociétés-là, l'outil de travail, l'entreprise, elle appartient aux gens qui y travaillent. Que s'il y a des bénéfices, ils sont repartagés obligatoirement, majoritairement entre les salariés. Tout ça s'est fédéré dans un mouvement qui s'appelle l'Union nationale des coopératives. Il y a des unions régionales aussi. Que les études qui sont faites sur ces sociétés coopératives, elles montrent que d'abord ce sont des sociétés viables, rentables, qui génèrent moins de chômage que les sociétés classiques. Qui sont inscrites dans le développement durable et local, parce que quand une société appartient à une coopérative, on n'a pas le risque d'avoir des délocalisations, parce que les actionnaires sont les gens qui y travaillent. Il y a plein de choses comme ça. Moi je me dis que ça serait peut-être intéressant qu'on en parle un peu plus, parce que quand des gens sont formés à la gestion des entreprises, on leur parle jamais des coopératives, alors que ça existe depuis très très longtemps. Il y a des gens qui se sont battus, on est inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire, au même titre que les assos et les mutuelles. Voilà, j'avais envie de témoigner un peu de tout ça pour dire que on peut être dans une société capitaliste où l'homme, l'être humain, a sa place, sous réserve que ce soit des humains qui décident et non pas des inhumains ou des logiciels, et que ça, dans le mouvement coopératif, on peut le trouver. Voilà ce que j'avais envie de dire sur les sociétés coopératives qui existent aussi en France depuis très longtemps. À bientôt, au revoir.
Salut le répondeur de France Inter. Les Français ont la mémoire courte, c'est le moindre de leurs défauts. Les gars, et les filles, les SN avancent. Et en plus, ils se parent maintenant de longs cheveux blonds. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Je vous en prie, ne laissez pas ces sirènes vous charmer. Honte à l'Alsace, près de laquelle je vis. Honte à leur record. Non, c'est pas vrai, tous les Alsaciens ne peuvent pas être aussi affreux. Je vais finir par boycotter la choucroute, moi. Allez, pousse, j'arrête. Mais réfléchissez bien avant de voter dimanche. C'était Mimi, à Belfort. Bye. Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Michel de Toulon dans le Var. D'abord, bravo à la gauche tout entière, la gauche unie. Et il faut en remettre une couche dimanche, encore plus vite, plus profond. Hein? Dommage encore que le FN soit là, mais bon, ben ces gens-là, il faut aller parler avec eux, il faut aller au contact, il faut leur expliquer que de toute façon, le Front National,
c'est une droite déguisée, parce qu'elle veut remettre, enlever l'impôt sur la grande fortune, remettre les femmes derrière les fourneaux, les enfants au travail à 7 ans, enfin bref, toutes ces conneries-là inadmissibles à notre époque. Mais dis-moi, je voudrais savoir un peu plus sur Bena Sayag de France Culture. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Une auditrice en a parlé. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Merci. Ciao.
Ils apportent le matériel, là, hein?
Le cercueil.
Je vais le chercher.
C'est quoi ça, c'est la mer? Comment vous appelez ça?
Je
Ouais, on appelle ça comme ça, mais c'est
comment?
La corneuse. Le cornu.
Une nao, comme dit
Anne. Oui,
une nao.
Le cauchemar est blanc de neige et le jour qui se lève sera le dernier pour monsieur. Monsieur va mourir, monsieur va être égorgé et son sang séparé de sa chair. Monsieur, c'est mon frère, mon miroir, il sommeille en chacun de nous. Il sommeille et fait, paraît-il, des rêves de luxure, de turpitude, démoniaque. Il est impur. Et en chacun de nous, il est aussi rêve, mais substance. Il est notre propre chair, il est notre propre sang, il est notre propre graisse. Depuis la nuit des temps. Sur cette planète, il marque son empire. Il a sa civilisation. Il y a celle des autres, qui est différente. Il inspire du dégoût, et pour ça, on l'aime. Il est notre enfance, il est l'enfance de notre monde. Aujourd'hui, on régresse, parce que dans régresse, il y a graisse, il y a tripe, il y a boyau. Le jour se lève, les hommes arrivent. Le Seigneur, d'abord, Monsieur Claude, Seigneur, oui. Et puis, il y a les autres qui sont là, Jean-Louis, Auguste, Gabriel, Roger, Guy, Hubert, Jean-Louis, Jean-Bernard, Eugène, et puis il y a les femmes, il y a Jeannette, il y a Odette. Odette, dans la cheminée de la ferme, sur le feu de bois, fait chauffer de l'eau dans un chaudron. Les couteaux sont affûtés, le nao ou cercueil est prêt, tout est prêt pour le sacrifice, pour le rituel. Aujourd'hui, on tue le cochon. Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New
York. Ah, il est en pleine forme.
Ça va?
Bravo, il fait à l'heure. Hein.
C'est toi qui t'es en retard, Jean-Louis.
Bonjour, la jeunesse.
Alors, vous avez pu...
Arrive à mes mamans.
Bonjour, ça va bien?
Ça va.
Il n'y a pas de neige, non?
Non.
Ce matin, il y en a.
À Paris.
On a téléphoné ce matin.
Bonjour.
Qui a téléphoné?
Ma femme a téléphoné au gosse.
Ah, c'est pour ça qu'ils sont de retard.
Bon, et bien alors, on y va, quoi.
Eh bien, attends, mais ça m'a mettre le veston, quand même.
Et Gabriel, il est où?
Ah, il n'a pas vu.
Et Jean-Louis?
Il
n'a pas vu. Et on va passer.
Alors, on sort le cochon. Il faut faire attention, il ne faut pas lui faire peur. On essaye de lui attacher les pattes.
On va mettre la langue.
Une ficelle des pattes et on va essayer de le porter sur le Nao, espèce d'étrange cercueil qui est disposé au milieu de la cour. Il y a la neige tout autour. Posé sous le Nao pour l'équilibrer, il faut que ce soit très plan. Il y a 5 hommes autour, hein. 5 là. 6. Le seau est prêt. Sous la tête du cochon.
Moi je veux bien y aller.
Une bestiole qui fait 180-190 kilos.
Et alors ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas tirer en arrière. Il faut avancer devant. Il est moins gros, par contre.
Ah bon?
Il me semble, non?
Ah bah écoute, hein.
Les couteaux sont prêts. Ah, le sang coule de la seille dans le seau et il faut qu'Odette remue très très vite pour pas que le sang coagule. Il y a 5 litres de sang à peu près dont on fera le boudin. Il y a 5 hommes qui tiennent le porc par les pattes, cordes autour des pattes, cordes autour du museau et on le tient aussi par les oreilles.
Il en reste combien, Odette?
Il en reste dessus la laisse. Il est trop tard, il est malade. Non, naturellement, pour mercredi. Jeudi.
Non, il est malade.
Encore il n'a pas fermé l'œil.
Encore il clignote. Mais c'est mieux pas.
Il est en train de nous trouver là.
Va monter.
Il avait attaché à la nave, que je vais aller quitter la nave. Quoi.
Lâche-la, t'as pas terminé.
C'est derrière un tasseur que des bois.
À quoi vous voyez qu'il est mort?
Vous voyez qu'il respire encore là.
Ah oui, oui, oui.
Il fronce le nez en arrière. Là,
et finalement, pourquoi vous l'égorgez? Pourquoi on pourrait pas s'y prendre autrement?
Oui, mais pour avoir le sang pour faire le houdin.
C'est la seule façon.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ah ouais. Et puis il faut sortir le sang, sinon la viande ne va garder le sang, vous ne la conserverez pas.
Il n'y a pas d'autre moyen.
Il
faut le tuer d'un côté ou de l'autre, que ce soit quand l'égorge ou quand le pende. Seulement si vous le pendez, le sang reste dedans, par exemple.
Et après, la viande, pour la conserver, il ne faut pas qu'il y ait du sang dans la viande.
Alors on accroche le cochon à une sorte de une balance romaine, tout à fait, et on le soulève avec la grue de ce petit tracteur. Et ça c'est très important parce que c'est la pesée. La pesée, ça détermine tout. La pesée avec le sang ou sans le sang, c'est très important. Ensuite, on va ramener le porc, le cochon, dans le nao, le tuet, si vous voulez. Et très rapidement, il va falloir amener de l'eau chaude pour raser le cochon. Alors, il y a ce ciel bleu magnifique au-dessus de nous, il y a de la neige tout autour, il y a du sang dans la neige, il y a ces hommes qui sont tous groupés comme une mêlée de rugby autour du cochon. Et il y a une buée comme ça qui monte, des vapeurs qui montent au-dessus d'eux.
Voilà
l'eau.
Allez, qui c'est qui... Un peu partout par là.
Oui, vous le videz dessus.
Je peux pas la couper.
Non, pas pour le moment, parce que...
Il paraît plus gros là que quand il était là-bas. Oui, non, mais il est pas... Il est à peu près comme l'autre, comme il pesait l'autre jour.
177.
Ah, mais il était plus gros, alors. Il était plus gros que celui-là.
C'est vrai. Ça va mieux, genou.
Oh, ouais, t'as passé, oui. Eh, ça fait quoi, ça, le genou? T'as fait le coup, il a dit, ouais.
Ça fait mal.
Putain, mais t'as fait le coup, t'as fait le machin, mais
oh. Non, mais le temps s'est passé. Tu t'aimes pas là-bas un peu de froid, là?
De la froide.
Là, on va le suivre. Qu'est-ce que je vais attraper un peu là pour voir?
Je vais passer un coup là, je vais jamais lancer.
Alors, pour gratter, pour enlever les poils, on se sert d'une chaîne qu'on passe autour du corps du porc. Et puis, on utilise aussi des tas d'engins pour raser les soies du porc. Il faut faire ça le plus rapidement possible.
Là, on est en train d'enlever les poils. On fait la barbe. On a passé le savon et là, on enlève les poils. Vous voyez ?
Écoutez, mais ils sont bien secs.
Oui.
Alors vous voyez, il faut toujours laisser un petit peu de poil pour sortir le lard dans la soupe. On le prend par le poil.
Tire la machine à l'autour.
Laissez-moi ça, c'est tout que pour moi.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Putain, mais on le tourne là. Soulève-toi, les charbons.
Tire-le là, tire-le vers toi là-bas.
Une fois qu'ils avaient les côtés comme ça,
c'est bon.
C'est bon? C'est vrai, tu vas prendre. C'est vrai. Je sais pas pourquoi ils coupent les queues.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Alors en principe, on tue le cochon à la vieille lune, au décours de la lune, toujours en hiver, parce que l'été, il y a les mouches, et c'est mauvais pour conservation de la viande, et les rôles sont répartis, très sérieusement répartis. Il y a le seigneur, S-A-I, seigneur, c'est Monsieur Claude, qui opère, qui dirige le travail, et les rôles entre les hommes et les femmes sont répartis. Autrefois, on dit que une femme qui avait son sang, qui avait ses règles, ne pouvait absolument pas participer à ce travail. Mais on va voir comment les femmes ont un rôle bien défini dans ce rituel, vraiment, ce rituel du cochon qui se pratique encore pas mal en France, qui se repratique à nouveau, et là, qui se pratique en Aveyron.
Dans le monde, ton peu.
On avait fait le mettre sur le plat.
Oui, mais le plat. Allez, il vient pas
bien. Mais là-bas, c'est une meilleure toujours. Dis, dis, frappe la cachette là. Mais là, on te plaît bien mieux.
Ouais.
Mais là, il n'en mérite plus, là, parfait. Là. Il est brûlé.
Et pourquoi vous ne gardez pas les poils?
Ah, ben les poils, dans le temps, ça se gardait.
Oui.
Faire les pinceaux.
Faire les
blaireaux.
Les blaireaux.
Pour se raser, surtout. Les...
Maintenant, il y a le rasoir électrique.
Les peintres voyez recherchaient énormément les poils de cochon pour faire des pinceaux.
Ah ouais.
Ah oui,
ah oui. Des pinceaux. Mais il y a 50 ans, mais chaque famille a tué son cochon. Et le gars, le seigneur, il avait tout l'hiver, il avait tous les jours un cochon à tuer, des fois deux. Et même des fois trois. Alors là, il avait intérêt à garder le poil, parce qu'il en tuait beaucoup, il en avait beaucoup, le poil.
Mais qui est le seigneur ici là?
Vous en avez un devant vous,
c'est lui là.
Ah!
Le seigneur, c'est celui qui tue le cochon.
C'est l'occasion, c'est pas un professionnel.
C'est un seigneur, mais il n'y a pas de château.
C'est les seuls qui tuent le cochon noir en élève 8 ou 9.
Ah!
Personne ne plus n'en élève.
Et attention, il faut ajouter élevé à l'ancienne. C'est-à-dire? Eh bien, tous les soirs, ils font la bouillie, ils font cuire, c'est des bêtes qui sont élevées comme il y a 50 ans. Hein.
Vous allez voir ce qu'ils mangent dans les cochons, la tête. Ils mangent les choux, on fait la patate. On enroule, on fait la farine, on fait une pâtée, on met de ça, de la farine.
Et vous le faites cuire ça là-dedans?
Oui.
Ça c'est pour la... Ah, les dents!
C'est un cuiseur, on met en bois dessous, ça se cuit là-dedans.
Combien il pèse là, le cochon au moment de le tuer?
Et là, il a celui-là, il a fait 182, je crois.
182 kilos?
Oui.
Et vous en élevez combien?
9.
Mais là, on ne va pas.
Tu veux le chalumeau?
Il y a
la voiture, la tête, il va aller chercher.
Moi, j'en ai ta voiture là-bas.
Derrière, il y a la bouteille de gaz et le chalumeau.
Oui, oui, c'est bon.
Tiens, mettons-le sur le bouchon.
Tu les ramasses, tes faux là.
Ah, c'est des bouts de faux?
Oui, c'est des bouts de faux, ça là.
Hein, c'est des lames de faux que vous coupez, qui servent à racler.
Oui. Voilà le jaune ici, qui a la rigidité, voilà le tranchant de la faux.
Ah, oui, tout à fait.
Ça a été coupé et ça sert à racler, ça sert à racler les bêtes.
Ah, ils sont en train de le hisser sur une planche.
C'est la table, hein. Pour le découper, oui.
Attends,
mettons-le dessus, puis on le reprendra après. Allez.
Tiens, Jean-Louis.
Allez.
Encore un peu.
Allez. Allez. Allez, mettez le poustel là, le poustel.
Qu'est-ce qu'il va faire?
Là, c'est bon.
Il faut que j'allume au guillet, c'est bon.
Pourquoi vous le flambez maintenant ?
Eh bien, les petits poils qui restent, voyez-vous, ça. Quand vous plumez une poule, vous enlevez les plumes et puis pour brûler l'eau du vin, vous la passez sur le feu. Pour aller jusqu'à... Voilà.
Il y a une odeur.
Voilà. Voyez, là, les poils, là. Voyez le poil qui reste tout de suite, là. On le voit où il était.
Il faut que le cochon soit propre. Le cochon, c'est sale. Sale comme un cochon. Tout un tas, si vous pensez en ce moment à tous les proverbes, tout ce qui tourne autour du cochon, c'est extraordinaire à quel point cet animal est notre... Elle fonde vraiment notre civilisation. Et on sait comment, dans les évangiles, il y a cette histoire du Christ qui envoie le démon à l'intérieur du cochon pour délivrer un homme possédé. Alors depuis, il s'agit de faire sortir le démon. Là, on le fait sortir à l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur. Et dans certaines régions de France, il y a peu de temps encore avant de tuer le cochon, on lui faisait boire un litre d'eau bénite pour le purifier à l'intérieur. Et après, on dit qu'on a remplacé ça par l'eau de vie qui aurait donné au cochon une certaine saveur. Mais c'est un très grand sacrifice.
On revient, il y a encore deux poils.
J'ai pas mes lunettes, je n'ai pas vu.
Oh.
Ah, c'est bon.
Il n'a jamais été au
centre. Avec Claude, il n'y a rien, c'est que ça va. C'est lui qui doit rouméguer, sinon.
Claude ?
Non.
Il
ne roumègue pas.
Claude, c'est un type qui ne roumègue jamais.
Il est en silence.
Sérieux ? Sa femme m'a dit, Claude...
C'est une affaire qui tourne.
Et la mienne s'en est aperçue. Elle m'a dit, quand tu seras comme Claude, tout ira bien.
Oui.
Une occasion de se retrouver dans ce désert. Alors là, les Causses Noires, c'est de l'autre côté du Larzac. Hein. Entre les deux, il y a la vallée de la Dourbie. Il y a le Tarn. Je ne dis pas le Tarn ici, on dit le Tarn. Et c'est vraiment des endroits très très désolés, très superbes en cette saison, couverts de neige, ciel bleu, et ce tout petit village là qui résiste, petit village de pierre qui résiste, où on est en train, là, il y a une mêlée humaine, en train de qui s'apprête à dépecer la bête. Alors ça y est, là, vous commencez à le découper.
Oui, on va vous aller voir. Pour l'asseoir. Comme s'il marchait, on va le positionner comme s'il marchait pour pouvoir ouvrir par le dos et de chaque côté la colonne vertébrale. Et on coupe les côtes à ras de la colonne vertébrale.
Rien pour vous
lécher, rien. Encore. Voilà. Il est parti sur les pattes. Non. Alors voilà, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hisser le cochon qui maintenant est lisse. Est rasé, il le glisse sur la planche.
Il faut pas le mettre en arrière.
Allez, il faut l'avancer.
Il est prêt pour la course là.
Voilà, là on coupe la tête. Ah ouais, c'est très précis hein, les endroits où il doit couper.
Le gargouillasse.
Voilà.
C'est bon le pain. Ah. La poignée.
C'est déjà prêt.
On va regarder.
C'est la partie supérieure de la tête. Il a fait une encoche pour passer son doigt. Très précis ces gestes-là. Sodo. Et voilà la tête du cochon.
Je l'ouvre, en fait.
Ben oui, je vais l'ouvrir.
Dis, Claude.
Remarquez qu'il est ouvert sur le dos, il n'est pas ouvert par le ventre.
Quelle est la différence?
Ah ben, on peut l'ouvrir sur le ventre, mais ici, la coutume, enfin, il est sur le dos. Pour le ventre, l'autre par le dos. Oui.
Merci.
Voilà le lard, la partie blanche. Voilà la tête à la queue.
Voilà. Il n'a pas la queue en tire-bouchon, votre cochon, là, c'est pas un vrai cochon.
Ah, maintenant, on est là. C'est fait exprès parce que, voyez-vous, quand il est comme ça, on le part au porte-manteau par là.
Tu vois, tu enlèves la
peau. D'accord.
Ouais. Jusqu'à l'os.
D'accord.
Attention mes doigts, hein.
Dis, si tu veux,
Venez m'aider.
Ouvrir.
Alors on ouvre. Alors, sur toute la longueur, on a ouvert le cochon, sur le dos du cochon.
Voilà. Et une chef indienne déclare la guerre au côté du cochon.
Ne tire pas trop.
Oui.
Alors, en train d'ouvrir.
C'est impossible. Je comprends tout, mais il faudra la soupe après le restant. Je ne sais pas la mettre la tête au friton, non ? Hein, monsieur Somad ?
Vous ne faites pas de. Vous ne bougez pas de tête, hein ?
Si. Ah, je sais pas, non, oui, c'est vrai. Tu fais du pâté de tête ou du pâté de queue ?
La couette ne va pas le coq.
Comment elle va pas le coq ?
Il n'y a pas reste. Autrefois, quand elle est en tire-bouchette, tu peux en sortir quelque chose.
Je faisais un plat d'antilles, maintenant.
Comme disait l'espagnol, c'est appétite, mais c'est bon.
L'appétite, mais c'est bon. Hé, cousinat.
Tu vois, maintenant, tu refais pareil, là.
Tu vois, j'ai laissé la langue, là.
Oui, mais on enlèvera ça.
Bon, je refais pareil de l'autre côté.
Allez.
Regarde ça,
ça va dans l'eau, ça.
Oui, vous l'avez un peu.
J'ai la langue.
Et là, la langue, regarde. Ah, là, il est complètement ouvert, là. Il est complètement ouvert. Comme un livre.
Oui. C'est le faux filet. C'est un morceau de putain de cochon.
Le rein.
Je le voyais sortir notre tête. Je savais bien qu'il fallait que je te le tienne.
Tu es en train de couper les poumons en morceaux, ça pisse le sang dans la neige. Et il met ça dans un.
Mais regarde, Claude, t'as fait un con, mon nom. Bon, quand tu dis que tu es grand, monsieur, dis.
Ça va le dos.
Oh, putain.
Ça va le sendou, là. C'est de.
C'est qui ça ? Ah, ouais.
C'est du gras, c'est du lard.
Ouais, ouais, d'accord. Surtout la soupe.
Ah, ouais, d'accord.
C'est garde, ça aussi.
Mais par les
fritons. Mais même la mâchoire, même les dents, là, vous.
Oui, oui, ça va dans les fritons, ça se cuit doucement, et il reste après que l'os. Il reste que l'os, que l'os. C'est ce qui donne le goût. Vous savez que la viande près de l'os, c'est celle qui a le plus de goût.
Et là ?
Eh bien, voilà, je vous l'ai dit.
C'est la meilleure. C'est beau, c'est tout. Il est pas gras, non, mais c'est des cochons qui sont pas gras. C'est ce qu'il faut. Cette année, c'est les sangliers qui ont mangé les pommes de terre. Oh. Et lui, il a fait berger, lui, pendant toute sa jeunesse.
Et après, je suis parti à l'armée. Non, après, j'ai fait la route avec les camions, les poids lourds. Je suis resté 4 ans. On faisait toute la France, quoi. Puis après, je suis parti à l'armée. Et puis, quand je suis revenu de l'armée, vous savez que j'avais un peu évolué, parce que quand on rencontre des gens un peu de partout, on évolue quand même. Et alors, après, je suis monté à Orsay, là-haut, dans la vallée de Chevrade, pendant 37 ans, dans les transports sanitaires. Uh-huh. Et là, je suis à la retraite maintenant.
Vous êtes revenu au pays.
Ah, toujours, moi, voilà, il fait mieux que là-haut, et là-haut,
il a des abeilles.
Maintenant, je me suis mis dans l'apiculture. Ah. 150 ruches, par là.
Ah, et ça marche.
Ah, ben oui. Si vous aimez le miel, je vous en mandrai.
Eh ben ouais.
Pas de problème.
Oui, vous vendez tout.
Il n'y a pas de problème, même de la cire, même pour faire les meubles. Vous avez une femme qui a mastiqué les meubles ? Eh ben je vous amène de la cire aussi.
Faites du cochon en Aveyron, comme depuis la nuit des temps, comme partout dans notre pays, comme partout dans une grande partie du monde, mais pas dans le monde entier, parce que si le cochon est ouvert là comme un livre, nous autres... Les peuples du livre ne sommes pas d'accord sur le cochon. On sait que dans la tradition juive, on ne mange pas de cochon. On sait que dans l'Égypte ancienne, on ne mangeait pas de cochon. Et aussi, on sait bien sûr que les musulmans ne mangent pas de cochon. Alors on cherche à ça des explications, des causes sanitaires, des analogies de goût entre le goût de la chair, de l'homme... et de la chair du cochon, pour pas se tromper. Mais simplement, il semble qu'il s'agisse d'un tabou alimentaire. Toutes les cultures, toutes les civilisations ont leur tabou alimentaire, comme nous ne mangeons pas de chien, par exemple, ou certains ne mangent pas de cheval, etc. Mais là, c'est pas du tout, mais pas du tout un tabou.
Bon, vous voulez faire rouler votre écharpe ?
Oui.
N'est-ce pas ?
Oui, oui, oui.
Mais je crois, oui.
Il regarde pas les trucs. Il a dit que je sais pas, il avait dit que les tripes, il en a acheté.
Pas même les grosses.
Ah, pas les grosses, si, les grosses, si. Il garde les tripes pour le boudin et pour les saucissons, mais les autres. Tu en as acheté les tripes,
j'en ai acheté deux.
Acheté.
Pour
le fichage, je
Ça, c'est le plus délicat.
Ça vient, André.
La conservation.
Même au ciel, il y a la neige.
Il faut enlever le sang, là.
Il est nécessaire de bien enlever le sang pour la conservation.
Et la veine.
La veine tombe.
Mais on parle celle. Ou mal. Moi, l'an prochain, l'an passé, je crois que c'est ça qui s'est passé. Ah, putain. Une veine qui a directement enlevé, et c'est à cet endroit-là qu'il va se parager.
C'est là qu'il s'esquinte.
Un tennis, un chiffon, il faut propre peut-être.
Vaut mieux tuer le cochon avec ce rang avant de midi.
Oui.
La conservation. C'est le jambon, là.
L'épaule.
Ah, oui, d'accord.
Le jambon, c'est au cul, là-bas.
Oui.
Mais ça fait un jambon aussi, quoi.
Un jambon.
Eh, quelquefois, ils vous demandent dans le commerce qui doit être souvent des non. Les épaules, non. Quoique non, je ne sais pas si...
Non, je pense que...
Ça part en charcuterie.
Oui, le jambon glacé. Ça fait pour l'épaule.
Oui,
il y en a, du jambon d'or.
Le jambon cuit.
Oui, le jambon d'or.
Mais je ne sais pas s'ils ont le droit d'appeler épaule, parce que ils le baptisent jambon.
Non, mais il y a le jambon d'or de l'épaule là, qui vaut un peu moins cher.
Qui c'est ça et le morceau que j'ai donné hier, hein, c'est
bah oui, pour la soupe, pour midi.
Bon, je ne rentre plus dans
la marmite. Et quelle marmite assez grande, Jean-Bernard?
Graisse, ils m'ont dit ça. Comment ça, tu vois, quand c'est cuit, les morceaux sont
tout faits. Mais rien que déjà avec ça, il n'y a pas besoin de mettre le reste.
C'est
un tas de. Je sais où il est, chef.
Moi, j'ai des corbeilles en osier que je fais.
Avec deux corbeilles, tu mets tout le cochon dedans.
Tiens. Il ne reste rien plus. Bien. C'est fini.
La belle manzate, comme dirait l'autre.
Auguste, s'il te plaît, là-bas, de faire du jeune canard sur le tracteur.
Oh, André !
Ah merde, il est parti.
On l'entend pas, quand il est parti. Vous devriez ramasser, oui, vous ramassez vos couteaux.
Oui.
On le met
dans la voiture
de chien,
ça.
Il y a le chien qui est en train de lécher le petit bout qui reste, le sang qui pisse dans la neige. Neige.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens, je te le donne. Et tout à moi. Hein, c'est fini, viens là-dessus.
Oh, dis donc!
Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si les cochons pouvaient parler, peut-être qu'ils diraient une chose comme ça, eux qui nous nourrissent depuis si longtemps et vis-à-vis desquels on n'a peut-être pas toujours la gratitude qui conviendrait. L'expression, par exemple, si les petits cochons ne te mange pas serait en fait une allusion à un mode de contrôle des naissances qui se pratiquait jadis où on jetait aux cochons les bébés à la naissance ou des fœtus dont on ne voulait pas. Ça, la réputation du cochon, mais c'est tellement bon le cochon. On rentre à l'intérieur de la ferme où Odette et les femmes s'activent.
Alors Odette, qu'est-ce que vous faites là?
Là, je suis en train de d'échauder les pieds du cochon.
Ouais. Alors, vous avez mis les pieds
voilà.
Dans une gamelle, dans
oui,
une marmite, dans l'eau bouillante, sur le poêle.
Voilà, et alors je vais enlever les poils et les... Comment ça s'appelle? Oui, non, les... Ce qui est au bout de l'eau.
Les ongles.
Oui. C'est pas ça, ça s'appelle pas le palais.
Vous pouvez les mettre dans des plats, des tripes, des daubes, ou bien les manger panés.
Ouais.
C'est bon, panés. Pardon, excusez-moi.
Alors, il y a un peu de feu dans la cheminée. On prépare les pieds du cochon qui feront le bonheur des gourmets. Et alors, on prépare aussi ce qui contiendra saucisses, boudin et le bonheur des dames et des messieurs.
Oh là ! Alors là, il y a une espèce de cagette pleine de tripes.
Voilà. Maintenant, on va les nettoyer. Mais elles ne sont pas grasses, hein?
Donc, c'est impressionnant, hein?
Non, c'est impressionnant. Mais non. Mais il faut trouver le bout.
Ça occupe presque la moitié de la table.
Oui, ça vous surprend? Ça vous surprend, tout cela?
Ah, mais je vois une... Vous cachez derrière le manteau.
Ça pue.
Ah, j'offre. Ah, c'est une citadine.
Oui.
Bah, ça me fait penser à un film d'horreur.
Oh, oui, tout à fait. Je sais pas lequel, par exemple. J'ai pas en tête, mais moi aussi, oui, parfois il y a des histoires de tripes comme ça.
Pauvre Odette, t'as jamais rien vu, hein. Citadine.
Faut mettre les mains dedans, faut y aller carrément.
Laissez-vous. Il faut trouver un bout.
Et
bien là comme ça, et puis finir là comme ça, et continuer, tourner.
Ne m'embêtez pas trop, Jeannette, parce que
je vais pas. Oh, c'est un travail, les tripes.
C'est du boulot, hein. Donc pour dénouer tout ça là.
Ah oui, il faut les dénouer.
Il faut dénouer tous les intestins là.
Oui. Odette va nous aider là.
Voilà, alors retirez-vous. Excusez-moi, mais.
Pardon.
On essaye de trouver un bout là et.
On s'habitue à l'odeur quand même.
Vous ne pas faire oui.
Et tous ces bébés. Même les bébés ils sont venus.
Il faut y aller avec les mains. On peut faire.
Ah oui, Elisabeth, faut pas avoir peur. Et bien c'est chaud, c'est bon. C'est
non,
chaud,
bon.
C'est bon.
Après peut-être. C'est bon.
C'est chaud. On se régale.
Ça réchauffe les mains, là, de mettre les mains dans les tripes, là.
Tout ce qui est chaud n'est pas bon.
Vous allez voir ce soir que vous aurez les mains fines.
Ah, ça rend les mains fines?
Oui, la graisse, ça radoucit.
C'est pas vrai, Odette?
Oui.
Alors, ces tripes et boyaux, il faut les nettoyer, il faut les laver, de façon à ne pas donner raison à Édouard Herriot, qui, parlant de la politique, disait « La politique, c'est comme l'andouillette, il faut que ça pue la merde, mais pas trop. Donc, nettoyage attentif. »
Je vais au plus avoir du couteau.
C'est très bizarre.
Et pourquoi tu rigoles comme ça, Odette?
Tiens, ouvre le trou. En pire.
Ça va. Donne-moi ça, allez.
Et la tienne?
Allez, vas-y, là.
La mienne, non plus.
Mais là, il n'a pas tourné avant de la laver, il n'a pas lavé. Allez, va, laisse-le tranquille. Il va mourir, alors. Mon
Dieu. Ça va, mon
Dieu. Il s'en va. Tiens, fous partout. Je ne sais pas si les droits, il y a d'autres, mais tu te les merdes.
Non, pour lui. Allez, il aime la merde.
Non, mais tu rigoles, mais si ça coule.
Il a lavé, t'es bien.
Alors voilà, maintenant fin de la première étape. Le cochon est en pièces détachées dans des corbeilles, dans des cajots, sur du linge. Tout ça est bien rangé, bien trié. Reste un acte très important sur la table de la cuisine, longue table devant la cheminée, tout le monde autour. L'acte 2,
payé.
Vous voulez boire quelque chose? Vous me regardez quelque chose, hein?
Moi, je vais vous payer.
Alors, si vous me payez.
Oui.
Moi, je ne sais pas combien vous êtes, c'est pas
ça. Ah, mais moi, je n'étais pas comme vous l'avez pesé, alors.
5,70.
Ah, mais le sang?
Non. 5, le sang.
Ça, le sang,
c'est
Et alors, combien? Ah, c'est pas le même prix que le supermarché, hein. On peut pas faire ces prix, nous. Hein.
Ah, ben, ouais. Mais c'est pas le même.
On peut pas le vendre à 10 francs le kilo, nous, hein. C'est pas possible. Hein. Parce que c'est, la marchandise, c'est pas la même. Hein.
Ouais, je sais. Voilà, racontez, je vous passe ce côté. Je sais pas ce que c'est bon.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Alors, 5.
5. Il y en a 5 guettes, pourquoi ? Ouais. Bon, et bien voilà, il est quelle heure ?
11h. 11h30.
Tu vas
voir.
Tu as la ville, hein ? Oui.
Alors, avec ça que j'attends.
Au revoir, madame.
Voilà.
Au revoir. À bientôt. Merci de votre gentillesse.
Voilà. Alors, on prend une journée, hein ?
Au revoir.
Voilà,
au revoir. Ah, mais il fait du soleil, dis donc.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. Merci à Benoît Califano et Bernard Palais. Reportage Thierry Scharf. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Réalisation Antoine Chao, assisté de Coyen Guyenne et Anne de Giaferi. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Je vous rappelle que dans le cadre du festival Critique sociale du capitalisme, ce soir à 20h à Arras, projection de Pas de repos pour Granny ou Comment prendre sa retraite en travaillant après une vie de chômage. Le tout suivi d'un débat. Si vous souhaitez réagir à cette émission, le répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.